Bienvenue dans Reconnexion, le podcast qui vous invite à vous reconnecter à vous-même et à découvrir les parcours et les partages de personnes inspirées et inspirantes à travers des conversations authentiques. Cet épisode se déroulera donc en deux temps. Nous commencerons par méditer ensemble pour nous centrer et nous rendre disponibles à l'instant suivant. Et ensuite, nous accueillerons Lionel pour notre conversation du jour. Donc, comme à chaque fois dans ce podcast, je vous propose de commencer par un petit exercice, une petite pratique de méditation. Donc, essayez de prendre un petit moment pour vous, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire et de trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Quand vous aurez trouvé cet endroit, vous pourrez vous installer dans une posture confortable, assis ou allongé. Fermez les yeux. Je vais commencer par prendre conscience du contact de mon corps avec le sol ou avec la chaise. Quels sont les points de contact? Les pieds peut-être, les fessiers. Comment est-ce que je laisse ce poids se déposer dans le sol tranquillement? Je prends conscience de ma position. Mon dos est droit. Sans effort, ma tête légèrement tirée vers le haut, comme s'il y avait un petit fil au-dessus de mon crâne. J'amène mon attention à ma respiration. Quand j'inspire, je laisse l'air rentrer dans mon corps par mes narines. Et quand j'expire, j'observe l'air qui sort. Je ne cherche pas à contrôler le rythme ou la profondeur de ma respiration. Je me contente simplement de l'observer, patiemment, tranquillement. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle d'air. Quand j'expire, il s'abaisse. Si cela m'aide, je peux ainsi suivre le mouvement de mon ventre qui naturellement évolue avec ma respiration. Et lorsque des pensées viennent perturber mon exercice, je le reconnais et je reviens tout simplement, gentiment, à ma respiration. J'inspire et je sens mes poumons qui se remplissent d'air. J'expire et je sens mes poumons qui se rétractent, se vident. Naturellement. Je remarque qu'en effet, je n'ai pas besoin de forcer, car la respiration se fait d'elle-même. Je n'ai rien à faire. Puis doucement, je vais amener mon attention aux sensations de mon corps. À cet instant, dans cet espace, commençant par la plante des pieds, et je vais progressivement remonter, juste en amenant une attention concentrée sur chaque partie que je vais nommer, sans chercher à intervenir, à détendre. Juste en étant là, présent, présente à la sensation et en observant les changements entre un moment et un autre, comme les sensations évoluent dans mon corps. Alors, je prends conscience pour commencer de ma plante des pieds. Quelle sensation s'y trouve? Et je remonte dans les doigts de pied, le dessus des pieds, les chevilles. J'amène mon attention dans les mollets, les tibias. J'observe les sensations dans les genoux, puis dans les cuisses. En remontant ainsi tranquillement, j'arrive au niveau des hanches. Hanches qui contiennent souvent beaucoup d'émotions qui n'ont pas été lâchées. J'observe mes sensations dans les hanches. Dans tout le bassin. Puis je remonte au niveau de l'abdomen. Je prends conscience de cet espace, toutes les sensations dans l'abdomen, dans le ventre, tous les organes qui y résident, qui y travaillent sans relâche pour prendre soin de moi. Doucement, j'explore les sensations dans le bas du dos. Je monte progressivement le long de la colonne, milieu du dos, haut du dos. Et j'observe les sensations plaisantes, déplaisantes qui s'y trouvent. Sans les nommer, sans chercher à comprendre ou à changer quoi que ce soit. Et tout doucement, je vais venir au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Je vais venir ressentir tout ce qui se passe au niveau du cœur comme sensation. Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est vibrant, chaud, présent ou imperceptible? Et je commence à me connecter aux battements du cœur, si j'arrive à les ressentir. Je prends conscience de ce battement qui lui aussi n'est pas contrôlable, qui lui aussi est permanent, se fait naturellement, sans mon intervention, 24 heures sur 24. Je respire. Je respire à travers ce cœur qui bat pour moi. Doucement, je vais remonter, ressentir mes épaules qui portent tant de choses, souvent beaucoup de préoccupations. Je ressens les sensations dans mes épaules. Je descends dans mes bras. Amène la tension dans les avant-bras, les poignets, les mains, les paumes de main, jusqu'au bout des doigts. J'amène ensuite la conscience au niveau du cou et de la gorge. Quelles sont mes sensations à cet endroit? Je remonte au niveau de la mâchoire. Et du visage dans son ensemble. Les yeux, le front, les tempes, j'observe les sensations dans mon cuir chevelu. Toute ma tête, toute la surface du crâne, au niveau des oreilles, dans la nuque. Maintenant que j'ai exploré chaque partie du corps, je peux tenter de me connecter avec la sensation globale de mon corps ici présent. Tout en revenant à ma respiration, je me laisse m'immerger dans cet espace dans cette sensation de mon corps. dans cette sensation de ma présence. Qui peut accueillir tous les changements, toutes les petites évolutions dans ce que je ressens. Et je respire. Je respire à travers ce moment, cette minute, cette seconde. Et je goûte l'unicité de cet instant. Avec mon souffle, avec mon corps, avec mon esprit. Je savoure encore quelques instants la sensation. Progressivement, je vais pouvoir commencer à bouger légèrement les doigts des mains, les doigts des pieds, tout en gardant les yeux fermés, pour me reconnecter avec le mouvement dans mon corps, à la surface, et me reconnecter avec l'extérieur. Je peux amener mes mains sur mon visage, sur mes yeux. Écarter un petit peu les doigts et ouvrir un petit peu les yeux progressivement pour laisser venir la lumière de manière douce, délicate. Et je peux enlever mes mains tout doucement. Merci de m'avoir fait confiance pour ce moment. Nous allons passer ensuite à un moment de conversation qui, après ce moment de centrage, sera d'autant plus appréciable pour vous autant que pour nous. À tout de suite. Du coup, je vais rapidement introduire cet épisode. Ça va être très rapide, je vais juste dire que j'ai ici Lionel, un ami de... Alors, j'ai envie de dire de longue date, mais en fait, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans qu'on se connaît ?
Ouais, je crois que c'est à peu près ça.
À peu près 2 ans, peut-être un peu plus, 2 ans et demi, je sais pas. Alors déjà, mettons-nous à l'aise. Lionel avait choisi de se mettre sur une chaise et en fait il est pas si à l'aise que ça. Il a envie d'être en face de moi et moi je suis au sol. Comme ça on est tous les deux au sol. Et moi ce qui m'a tout de suite frappé quand on s'est rencontrés, alors je sais plus la première fois. Ouais. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'était la présence et la sincérité chez toi. Si je me souviens bien, c'était un jour dans la nature.
Ouais, je crois que c'était dans la forêt de Clamart.
Et voilà. Et je me souviens que j'avais eu un très fort ressenti de waouh, il y a quelque chose, il y a une connexion quoi, entre nous. Et c'est resté du coup. Et je suis contente de ça. Et du coup, si j'invite aujourd'hui Lionel, c'est parce que j'ai envie qu'il nous parle de lui un peu et qu'il nous. Qu'on initie ensemble une conversation sur la reconnexion à soi à partir de son expérience. Donc je vais arrêter de dire son, je vais dire ton. Donc Lionel, on va commencer. Est-ce que tu as envie de. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler en rapport avec la reconnexion à toi ? Une expérience que tu as eue ou une pratique que tu as qui a vraiment un rôle important dans ta reconnexion à toi. Alors ça peut être dans le passé, la première fois que je me suis reconnectée à moi, c'était ça, ou ça peut être en ce moment, ce qui m'aide à me reconnecter à moi, c'est ça. Ça peut être plein de choses en fait, mais j'aimerais avoir ton point d'accroche aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi de partager sur ce thème.
Ce qui m'a aidé dans le passé, c'est une partie des thérapies que j'ai fait pour moi en fait, des gens que j'ai rencontrés, des différentes approches. Mais aujourd'hui, ce que je commence à connecter. Ça peut paraître paradoxal, parce que moi j'ai une activité de thérapeute, mais en fait je sens qu'il y a un espace au-delà de la thérapie. Et c'est un truc que je commence à toucher de plus en plus intensément en fait. Il y a quelque chose, ça peut être un peu long à développer, mais il y a un espace au-delà de la thérapie en fait. Il y a quelque chose qui est. C'est comme si dans la thérapie il y avait quelque chose de vrai et en même temps quelque chose de factice. Et qu'il y a quelque chose au-dessus de ça. Et en ce moment, ce qui m'aide à me reconnecter, c'est plutôt d'aller marcher. En fait. Et en fait, ça a commencé avec Compostelle cet été. J'ai marché pendant 12 jours. Et c'était 12 jours. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est comme une. Quand on fait une petite balade en forêt de 2 heures, ça fait du bien, on voit des petits oiseaux. Sauf que là, c'est. Quasiment toute la journée en continu pendant 12 jours. Et moi j'ai fait qu'une partie de Compostelle. Il y a des gens qui partent pour un mois, deux mois. Et je me suis pas senti heureux comme ça depuis hyper longtemps. C'est un truc, ça m'a surpris moi-même en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une réserve de bonheur à l'intérieur de moi qui était endormie, mais qui a toujours été là en fait. Et j'avais plein de pensées dans la tête. Et c'était des pensées qui me faisaient rire. Donc quasiment toute la journée, en fait, j'avais toujours des pensées dans la tête, comme dans la vie courante. Sauf que là, c'était des pensées qui me mettaient en joie. Et ce que je reconnectais aussi, j'avais plein de souvenirs qui me revenaient, mais c'était des souvenirs sympas.
Ça te mettait en joie parce que c'était des pensées plutôt positives, agréables ?
Ouais.
Ou est-ce que c'est parce que t'avais plus de recul ? Sur tes pensées, que tu t'identifiais pas à tes pensées, du coup c'était plus facile de les laisser passer, entre guillemets.
Ouais, mais j'aimerais bien te dire ça, mais en fait non, c'était vraiment des reconnexions naturelles avec des souvenirs sympas.
Super.
Et je pense que c'est comme j'étais vraiment heureux, et ben ça me. Ouais, ça m'a rappelé à des choses. D'autres choses heureuses en fait. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte à quel point je ruminais. Enfin, que la rumination, c'est vraiment la reconnexion à des trucs pas sympas ou qu'on voit comme pas sympas. Et que là, c'était vraiment. C'était des souvenirs sympas, quoi. Des choses. Des moments, je me suis rappelé de moments où j'avais rigolé avec des amis, des choses comme ça.
C'est comme si t'avais reconnecté avec l'énergie de gratitude en toi, en fait, que tu t'avais pas trop. Précédemment, enfin, quand tu dis je ruminais, c'était des moments où t'étais plus dans un truc à voir que les aspects négatifs dans ta vie, et là d'un coup t'avais plein de souvenirs positifs, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que ce que j'ai touché, c'est qu'il y avait quelque chose de. Dans ma vie ordinaire, j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose de très étriqué en fait, de très petit, C'est comme si j'étais dans une petite boîte et qu'en fait ça correspond pas du tout à... Enfin, il y a quelque chose, je pense que c'est pareil peut-être pour tout le monde, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et je me suis même dit, ce qui m'est venu quand j'étais accompagnée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me fais chier dans ma vie courante en fait. Parce que pour être aussi heureux là, je me suis dit, mais vraiment, c'est... Ouais, j'étais...
Ouais, ce que t'as vu, c'est que t'es pas dû à toi en tant que personne, mais dû à ta situation, en fait, ce que tu, tes habitudes, peut-être, ton quotidien.
Oui, en fait, ce que ça m'a fait toucher quand je te dis qu'il y a une histoire de... Ouais, quand je te dis...
de plus grand en toi,
quoi. Ouais, puis quand je te dis qu'il y a un truc au-delà de la thérapie, parce que moi, là, depuis plusieurs années, je me suis beaucoup consacré à ce qu'on peut appeler du développement personnel, méditation, la thérapie, énergétique... la sophro-analyse, enfin plein de choses. Mais en fait, comment dire, en fait, pour moi, tout ça, c'est un peu comme faire le ménage. C'est faire le ménage dans la maison. C'est-à-dire que j'apprends année après année à faire le ménage dans ma maison. Mais à un moment, la maison, il faut que ça vive à l'intérieur de la maison. Et ça, je pense que c'est pas la thérapie qui le donne. Je pense que la thérapie... Je parle de thérapie parce que c'est important pour moi. Je pense que la thérapie, ça permet de nettoyer la maison et d'apprendre à nettoyer la maison. Mais après, si tu mets pas de la vie dans ta maison, c'est une belle maison propre et vide.
Ouais, ça, moi, ça me fait penser... en fait, dans le bouddhisme, moi c'est une pratique, une philosophie qui m'inspire beaucoup.
Ouais.
Et... il y a plusieurs pratiques, et il y a effectivement la méditation, vipassana, on appelle ça... vipassana, ça veut dire regarder la réalité, en fait, voir la réalité. Donc, finalement, une forme de thérapie, elle peut être une forme de thérapie, puisque ça permet de nettoyer, en fait, des couches de mental, etc. Mais ça, c'est une des pratiques. Et il y a d'autres pratiques qui sont des pratiques dites de cultivation, de culture, peut-être, je sais pas, enfin de cultiver en fait, en anglais on dirait cultivation practice, et en fait c'est cultiver la joie notamment, cultiver l'amour et cultiver la joie. Cultiver l'amour c'est metta, et cultiver la joie c'est mudita. Et en fait c'est des pratiques qui sont complémentaires et indispensables, on peut pas juste être dans un nettoyage comme tu dis. Ça fait, l'art de vivre du bouddhisme, que repose le bouddhisme, c'est aussi... goûter pleinement l'instant présent, goûter quand il y a un souvenir joyeux, quand il y a quelque chose de joyeux, et vraiment le laisser s'intégrer, se digérer pleinement et faire partie, vraiment prendre le temps d'apprécier l'expérience quand elle est positive, quand elle est joyeuse. Et il y a un maître zen bouddhiste qui m'inspire beaucoup, qui est Thich Nhat Hanh, et lui parle de graines de bonheur, d'arroser les graines de bonheur en nous, les graines de joie, les graines d'amour, les graines de bonheur. Donc c'est pas juste, évidemment, prendre soin des choses qui sont difficiles en nous, des blessures, du passé, parfois douloureux, mais en même temps, cultiver la joie, cultiver l'amour. Est-ce que ça te parle ?
Oui, ça me parle... Ça me parle, mais ce qui me parle de plus en plus, c'est que c'est de cultiver... Tu vois, je te parlais de Compostelle. En fait, moi, j'aime bien marcher, donc je me suis dit que ça allait me plaire, mais ça m'a plu au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, maintenant. Cette histoire de reconnexion à soi, c'est de... Ça peut paraître simple, mais m'autoriser à me faire plaisir. Mais de façon très spontanée. En fait, ce que j'ai reconnecté aussi à Compostelle, j'ai reconnecté le plaisir, j'ai reconnecté la spontanéité. Et en fait, je pense que cette joie... comment dire ? Retrouver une espèce de joie enfantine. Et justement, le lien que je fais avec les pratiques, éventuellement le développement personnel, c'est moi ce qui me parle de plus en plus, c'est que ça soit des... d'arriver à une reconnexion, justement, simple. Mais souvent, les pratiques, quand elles sont mal utilisées, elles amènent de la complexité. Je dis bien quand elles sont mal utilisées. Elles amènent de la complexité. Et moi, ce que je me rends compte que... J'ai envie de retrouver un chemin direct, de plus en plus direct. Je sens que c'est hyper important pour moi. Et que ça passe par des choses extrêmement simples. Et par exemple, ce que j'ai éprouvé dans mon corps, c'est le plaisir de marcher 30 km par jour. Et je me suis rendu compte que mon corps, il aimait ça. Intellectuellement, je me serais dit, mais non, c'est chiant de marcher 30 km. Mais mon corps, il était content. Il était content, en fait. Et cette reconnexion, justement, je pense qu'elle passe beaucoup par le corps et l'écoute du corps. J'avais une amie au téléphone l'autre jour. Moi, j'ai des interrogations des fois sur où est-ce que j'ai envie de vivre. Et une amie me disait au téléphone, ton corps le sait. On est comme des animaux. On sent quel est notre territoire. Et notre corps, il le sait, en fait.
Ah oui. Non, mais ça, je peux qu'approuver. Enfin, je te disais à l'instant, quand je suis arrivée ici, là, on est dans mon appartement, mon studio à Paris. Et j'étais chez mes parents avant ça, en transition, je le précise un peu. Et quand je suis arrivée ici, en fait, directement, mon corps, il y a eu une détente. C'était incroyable. J'ai eu une détente physique le lendemain. Donc j'ai passé la nuit ici le lendemain. J'étais dans une détente physique et mentale incroyable que j'avais pas eue depuis des mois, en fait. Où je me sentais bien chez moi. Comme soulagée, et comme s'il y avait plus... Il y avait comme plein de jugements et de choses que je faisais peser sur moi qui avaient... s'étaient évanouies, en fait, s'étaient évaporées, et je me sentais libre et... Ah là là. Donc je suis persuadée qu'il y a... Ouais, notre corps, il nous parle, quoi. Il nous parle de si on est bien là où on est, alors que ce soit le lieu, les personnes avec qui on est en relation... Il nous parle énormément sur ça aussi, sur notre environnement en fait, puisqu'on est en permanence en interaction avec notre environnement et notre corps, il le sent direct, quoi. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Ok, donc du coup c'était la marche qui t'a fait découvrir quelque chose que ton corps avait été en demande ou était en...
La marche et la nature. Et en fait, ce que je disais à une amie aussi il n'y a pas longtemps, c'est que là, j'ai une forêt à côté de chez moi, et j'y vais de plus en plus. Et en fait, finalement, il y a des gens qui ont un animal de compagnie. Moi, j'ai eu un chien là, pendant quelques mois. Et effectivement, je vois la relation que ça peut être d'avoir avec qu'on peut avoir avec un animal. Et comment ça rend vivant aussi. Ça vient activer ce qu'il y a de vivant en nous, d'être avec un animal, en fait, qui est pure vie, quoi. Et en fait, l'autre jour, j'étais dans la forêt, je me suis rendu compte que la forêt, c'est mon animal de compagnie, en fait. c'est un ensemble vivant, c'est un grand organisme vivant. Qui est... Puisqu'en ce moment, on parle des incendies de forêt en Amazonie. Et ben, c'est la forêt, c'est un grand organisme, d'un seul tenant, en fait. Et en me promenant dans la forêt, j'éprouve la joie que j'avais avec le chien, là. C'est vraiment je vois du vivant partout, en fait. Et voilà. Donc ça a été très fort aussi, comme reconnexion.
Oui, c'est une reconnexion à soi, mais là, du coup... Ce que tu ajoutes et qui me parle totalement, c'est que c'est une reconnexion à ce qui est vivant en soi.
Ouais.
Là, pour le coup, c'est en fait... Moi, j'ai l'impression que, en fait, dans beaucoup d'expériences que je vis comme positives ou comme agréables, c'est pas l'autre ou c'est pas l'environnement. En fait, c'est comment l'autre ou l'environnement me fait me connecter à la vie en moi. Et c'est merveilleux parce que du coup, je me rends compte que c'est accessible, en fait, directement. Tu parlais d'accès direct, mais que, en fait, oui, la forêt, l'animal de compagnie, ou la musique, pour moi aussi, est un intermédiaire important. C'est des, justement, c'est des intermédiaires pour accéder à cette vie en moi. Mais en fait, il y a des, aussi des moments où, où je peux la sentir spontanément. Parfois en méditation ou même le matin quand je me réveille dans mon lit. Donc c'est assez magique de toucher ça, quoi. Okay. Est-ce que tu as envie de me parler de... d'autres choses sur la reconnexion à soi, là maintenant, sur toi en fait, dans ton expérience et dans ce qui te meut en ce moment? Ou est-ce que tu as envie de lancer un sujet, de me poser des questions à moi? Genre, il n'y a pas de règles spécifiques dans la conversation. C'est, je propose quelque chose, mais...
C'est open bar.
Ouais. Moi, j'invite à ce qu'on parte de la personne, qu'on fasse découvrir ton univers, en fait, aux personnes qui écoutent, et ta vision, etc. Mais après, j'aime bien aussi quand c'est fluide, donc c'est...
Ben en tout cas, moi, ce que je sens, c'est que dans mon parcours de vie, mais peut-être que ça m'intéresserait aussi d'avoir ton avis là-dessus, enfin, si toi, t'as vécu quelque chose de similaire, je sens que toutes les activités que j'ai, elles convergent de plus en plus. Et moi, je suis prof de guitare, je suis musicien depuis... je suis prof de guitare depuis 10 ans. Et mes cours se sont transformés, en même temps je me suis transformé en fait, par d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la musique. Et ouais, c'est ça que je sens le plus, c'est que je suis un organisme vivant, donc tout ce que j'apporte a des conséquences sur moi, me fait bouger dans un sens ou dans un autre. Il y a des moments d'ouverture, d'expansion, il y a des moments de fermeture. Et qu'il y a quelque chose en fait, de très juste là-dedans. C'est ça que je sens de plus en plus. C'est que, évidemment, comme tout le monde, j'ai pas envie de vivre les moments désagréables, les moments où ça se referme. Mais je sens que c'est comme le battement d'un cœur qui se contracte et qui s'ouvre et qui se contracte. Et j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus juste, cette alternance.
Comme si t'arrivais de plus en plus à être... à être en... en paix avec cette, ce changement permanent, en fait. Cette impermanence. Voilà, ou au moins à l'accueillir autant que possible, quoi.
C'est-à-dire que c'est... comment dire... Plus je le ressens... plus je le ressens avec le corps, et plus c'est simple. Et plus c'est simple. En fait. Oui, en fait, moi, je pense que la plus grosse reconnexion que j'ai eue dans ma vie, c'était vraiment avec mon corps. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres, à aller à des conférences. C'était très intéressant, c'était même parfois très vivant. C'est le retour au corps pour moi qui a été hyper important en fait. Et surtout de découvrir que ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que c'était avant l'enregistrement là sur la. On te regarde un petit coin de. Au sol, une petite partie du sol, dans une forêt qu'on peut se dire a priori que c'est pas très intéressant, qu'on va vite s'ennuyer, et puis on se rend compte à quel point c'est vivant, et à quel point il y a une infinité de choses à découvrir. Et ben c'est exactement ce que j'ai découvert avec mon corps, en fait. C'est que les sensations dans le corps, c'est d'une richesse sans limite. Et que c'est beaucoup plus vrai et beaucoup plus juste que les pensées qui me traversent, ou même... les émotions. Il y a vraiment, le corps, c'est vraiment le juge de paix, en fait, pour moi. Quand j'écoute mon corps, je suis juste, je suis dans une grande justesse, en fait.
C'est marrant ce que tu dis, parce que Donc tu parles pensée, émotion, corps, un petit peu comme si en se rapprochant du corps, on avait ce qu'il y a de plus juste, c'est ça? Et en fait, ça me renvoie totalement à la communication non violente. Alors je sais pas si toi tu en as pratiqué vraiment à fond ou pas.
Non, mais je m'y suis intéressée pas mal, mais j'ai pas pratiqué.
Ouais, en fait, moi c'est une pratique qui m'accompagne tout le temps. Depuis 2 ans quoi. Donc c'est pas tant que ça, mais j'ai l'impression que ça fait depuis toujours tellement c'est important pour moi. Et en fait, c'est une invitation à descendre progressivement de la tête au cœur, au corps. Et en fait, c'est effectivement ce chemin de... D'abord, je me raconte une histoire, j'ai une pensée, je me raconte une histoire sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Ok, mais cette histoire, quand je me raconte cette histoire, comment je me sens? Donc là, je reviens au cœur, à l'émotion. Et en fait, pour pouvoir vraiment accéder profondément à l'émotion, j'ai besoin du corps. Parce que je vais dire, ok, mais cette émotion, j'arrive peut-être pas à la nommer, alors c'est comment, où c'est dans mon corps? Donc je vais dans le corps. Et en fait, au moment où je m'autorise à la ressentir, déjà il y a un apaisement qui se fait. C'est pas forcément immédiat et c'est pas forcément total, mais il y a déjà quelque chose qui change. Et après, je vais descendre à un niveau, bon là, je vais pas partir dans les détails, mais au niveau du besoin. Et en fait, on le symbolise vraiment que le besoin, il est dans le ventre, qui est en fait la partie la plus, primale ou... primaire de notre corps, le système digestif, etc. C'est finalement un endroit extrêmement vital.
Oui.
Et c'est là, en fait, qu'on symbolise que là, c'est là que sont les besoins,
oui.
C'est là que sont les aspirations. Quand on dit « Ah, je le sentais dans mes tripes », enfin, il y a quelque chose de quand même dans les expressions, on le symbolise comme ça. Et donc, ça veut dire que... En fait, les besoins, c'est au plus proche de qui on est physiquement. Enfin, je sais pas si c'est physiquement, mais de la vie, quoi.
Ouais.
Et la vie, elle s'exprime à travers le matériel, en fait, le physique. Ça veut pas dire que le mental, donc les pensées, que l'énergie, les émotions, et tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais c'est comme un préliminaire. C'est l'action, elle se fait dans le physique. Donc... effectivement, en communication non violente, on essaie toujours de terminer par se dire, bon, quelle petite action je peux faire? On arrive donc après le ventre, il y a les jambes. Donc c'est quoi les pieds? Quel est le plus petit pas que je peux faire pour m'aider à nourrir mon besoin? Et parfois, l'action, en fait, ça va être une action sur moi, prendre un temps le soir pour écrire, ou je sais pas, peu importe. Mais ça peut être une action plus grande, ça peut être toute forme d'action, mais c'est une action physique, enfin, où il y a... quelque chose de physique qui se fait dans la matière, où c'est pas purement intellectuel ou purement imaginaire, en fait. Donc c'est ouais, moi ça m'inspire beaucoup, et ça fait beaucoup écho à ce que tu dis, que passer par le corps, c'est essentiel, que le corps nous parle. Ok, je suis vraiment contente qu'on commence ce podcast en parlant de ça. Parce que du coup, on s'ancre tout de suite, entre guillemets. Je pense que ça aurait été dommage de partir tout de suite dans des grands trucs très spirituels, même si on parle de choses spirituelles, mais ça reste en lien. Et on ne sépare pas les choses entre ce qui est de l'ordre de l'esprit et ce qui est de l'ordre du corps. En fait, le corps, ça comprend tout. Donc ça, c'est cool qu'on parle de ça. Ça me fait plaisir. Ouais,
mais surtout que ce que j'ai observé, et ça pour moi c'est valable aussi bien pour la thérapie, le développement personnel, la spiritualité, enfin toutes ces choses qui sont très en vogue et qui sont très dans l'air du temps, c'est de... À un moment, je pense que... Enfin, moi, ce que j'ai vécu, si je parle que de mon expérience, il y a un moment, je me suis un petit peu noyé là-dedans, en fait. Et je pense que j'ai pu perdre le sens, pourquoi je le faisais, en fait. Un petit peu comme si, de façon pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, de façon frénétique que je voulais passer l'aspirateur 15 fois la même journée dans l'appartement. Il y a un moment, ça n'a plus de sens. Enfin, en tout cas, pour moi, le sens que ça... Enfin...
Concrètement, qu'est-ce que tu faisais Tu multipliais les pratiques
enfin... Oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de méditation. Et je pense que... comment dire Oui, j'ai fait beaucoup de méditation. Et je pense que ça... bah, c'est souvent ce qu'on dit aussi, c'est que ça pouvait être un peu comme une fuite, quoi.
Mais tu faisais méditer... Mais si tu faisais... Tu dis que tu te dispersais entre différentes choses, c'est un peu ce que tu allais dire. Donc c'était pas que la méditation, c'était le développement personnel en général, ou il y avait vraiment un truc avec la méditation.
C'est pas une histoire de dispersion, c'est une histoire que j'en attendais des choses que ça pouvait pas me donner. De même que passer l'aspirateur, je le fais pour être bien dans mon environnement, mais ça ne me rend pas profondément joyeux. Ou disons, pour que je sois profondément joyeux, j'ai besoin de plein d'autres choses que de passer l'aspirateur.
Okay.
Voilà, c'est un peu ça le truc. C'est un exemple gros comme une maison.
Non, mais du coup, j'essaie de me reconnecter à ce que tu dis sur la méditation. Tu disais que c'était un peu comme une fuite, et là, tu dis...
J'attendais,
t'attendais à une sorte de résultat, en fait.
Oui.
T'en attendais beaucoup,
c'est ça. Et je pense que surtout, j'attendais des choses qui ne... Enfin... Comment dire ? J'attendais des choses que je ne peux, des choses que je pourrais pas obtenir avec ça. En fait.
Par exemple ?
Et ben de, bah, par exemple Compostelle, puisque je reparle, voilà, c'est l'exemple le plus récent. C'est pas une thérapie. J'ai marché dans la nature, j'ai marché de ville en ville, de village en village, et je l'ai pas fait. Surtout, c'est très important ça. Je ne l'ai pas fait dans un esprit de thérapie. Peut-être que ça a un lien avec ce que tu viens de dire sur l'attente de résultats. Mmh. Je ne l'ai pas fait pour quelque chose. Mmh. Je l'ai fait parce que j'étais content de le faire.
Mmh.
Et qu'à partir du moment où j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire « Ah bah tiens, j'ai pensé à toi Lionel, j'ai très envie de faire Compostelle, et qu'est-ce que t'en dis ?» En fait, moi, ça faisait des années que j'y pensais. Donc quand elle m'en a parlé au téléphone, j'ai dit oui tout de suite.
Mmh.
Et là... Quelque part, il y a quelque chose, puisque tu parles de reconnexion, c'est ton thème. Moi, je me suis réaligné. Enfin, là, j'ai dit oui tout de suite. Tu vois, il y a des fois, mm. je peux hésiter pendant des heures sur un truc. Là, j'ai dit oui, immédiatement.
Mm.
Et effectivement, il n'y avait pas de but.
Ouais, ça, c'est intéressant.
Autre que de faire quelque chose qui me plaît.
C'est ça. Et d'où est-ce qu'on part ? D'où est-ce que part notre action ? Est-ce qu'elle part de... d'une frustration, on a envie de régler un problème, on a envie d'atteindre un résultat, ou est-ce qu'elle part d'une envie, dans le sens envie, de quelque chose de vivant en nous qui dit oui. Et ça, c'est... ça fait une vraie différence, en fait, finalement, paradoxalement, ou ironiquement, sur le résultat. C'est-à-dire que le fait de le faire sans attente, ou du moins avec une joie naturelle, et de juste profiter du moment sans chercher à atteindre un objectif particulier... ça crée des résultats, en fait. Mais c'est pas... Ouais. Ça montre que, en fait... Ouais. Enfin, bref. Je sais pas comment l'exprimer. Mais oui, il y a quelque chose de fort dans ça, ouais.
Mmh. Bah, en fait, ça rejoint la phrase... je sais plus, hein, je crois que c'est... le bonheur est dans le chemin et pas dans
la c'est très classique, tellement classique. Mais ouais. Tout à fait, oui. En plus, en marchant, c'est sûr que là,
c'est vraiment le chemin.
La super belle image, la métaphore magnifique.
Oui, parce qu'on dit le chemin de Compostelle, hein. C'est vrai, c'est vraiment ça.
Ouais, c'est vraiment ça.
C'est vraiment marcher. D'ailleurs, en espagnol, c'est el camino. Et c'est vraiment le... C'est marcher, quoi.
Oui, caminar, ouais, marcher.
C'est marcher.
C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en français, c'est pas pareil. D'ailleurs, tu parles espagnol, toi, un peu.
Ah oui.
Tu parles beaucoup.
Si.
Si quieres,
más o menos.
Continuamos en Espagne. Il faudrait qu'on fasse, une version, parce que moi j'ai envie de faire des versions espagnoles, version anglais, mais pas pour chaque interview, pour ceux qui parlent que espagnol ou qu'anglais, mais ça aurait été drôle de faire une demi-interview en espagnol.
Mais non, c'est sûr que... Moi, je trouve qu'il y a une richesse. Moi, je suis passionnée par les langues. Et je trouve qu'il y a une richesse dans les... Le fait justement de reconnaître dans chaque langue, ah, ça, on le dit comme ça dans telle langue et comme ça dans telle autre. Et pourquoi? Et ouais, moi, ça me passionne vraiment découvrir ça. Comme j'étais en Colombie l'an dernier, j'ai passé un an en Colombie. J'ai vraiment pu goûter cette joie de la découverte, de ce qui se cache derrière une langue. Au niveau culturel aussi, parce que c'est l'espagnol, mais c'est l'espagnol d'un certain pays, donc il y a des expressions qui sont que là-bas, il y a plein de choses. Et d'essayer de capter en fait la manière de penser des gens, la manière de... les habitudes et les ressentis, la manière de ressentir aussi des gens à travers leur manière de parler. Je trouvais ça assez fascinant. Et je continue de trouver ça fascinant, et évidemment, c'est quelque chose qui me donne très envie de revoyager, hein, bien sûr. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que, comme on disait tout à l'heure, là, tu parlais d'approche directe, enfin de fait d'arriver de directement accéder à cette reconnexion, à ce ressourcement en soi. Parfois, on a besoin, j'ai l'impression, d'aller très loin pour se reconnecter, pour se rencontrer soi-même. Mais finalement, là, en étant revenu, je vois que déjà j'ai pas perdu ma connexion à moi et que je trouve d'autres moyens. Et aussi, je vois que, en fait, je m'étais pas rendu compte, mais à Paris notamment, il y a plein de gens de plein de cultures différentes. Et il suffit d'ouvrir une porte et on se rend compte qu'en fait, j'ai vécu pendant 20 ans dans un univers très fermé, entre guillemets, enfin, même si ouvert d'esprit, mais fermé. Où j'ai pas eu accès à beaucoup de cultures différentes. Et ça me donne envie d'ouvrir plus de portes comme ça et me dire, bah, en fait, j'ai pas à... En tant que Français, Parisien, on se plaint souvent, surtout Parisien, on se plaint souvent d'être à Paris et j'ai envie plutôt de voir le côté multiculturel, enrichissant, ouvert, varié, quoi, que cette ville nous apporte, même si effectivement. En ce qui me concerne, je pense que j'ai un peu projeté sur toi quand je parlais de dispersion. Moi, j'ai une tendance quand même à me disperser ou à être attirée par plein de choses différentes et du coup à perdre mon centrage et perdre mon énergie. Donc, je suis plus dans ce travail-là en ce moment. Et c'est très marrant parce que là, entre guillemets, je reviens d'une période où j'étais très 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 fatiguée. Enfin, je suis encore un peu fatiguée, mais ça va quand même nettement mieux. Et dès que je récupère de l'énergie, je vois que j'ai une sorte de frénésie d'envie de trop tellement profiter que j'en fais trop, que je suis frustrée si je fais pas tout ce que j'avais voulu faire, si j'expérimente pas les nouveaux lieux que j'avais voulu voir ou les nouvelles personnes que j'avais envie de rencontrer. Et c'est un vrai défi pour moi. C'est un vrai défi justement d'être dans ce pas, justement dans le chemin, en même temps que je marche, d'être dans chaque pas et de pas être là à regarder absolument « Ah, mais là, il y a plein de jolies maisons, et puis là-bas, il y a un beau village, mais alors je vais où en premier ?» Et puis, est-ce que je franchis la montagne ou est-ce que je reste sur la colline et dans quel timing, en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors que si je suis dans chaque pas, et il y a des jours où je suis, là, ces derniers jours, j'étais plutôt dans ça, en fait, je passe mon temps à goûter la vie et je me pose pas ces questions. Ou il y a des instants très précis où bon là il faut que je fasse un choix, donc je fais un choix, peut-être sentir venir le doute, l'hésitation, et après une fois que j'ai fait le choix, paf, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais ça c'est tout un thème, je sais pas, pour faire le thème de faire les choix, si ça te dit de développer là-dessus, mais attends,
on reste combien de temps là? Ça va?
À peu près. On est un peu dans l'impro, mais vas-y.
Ouais, non, ça me parle bien parce que t'as dit un truc que je trouve vachement intéressant, c'est le fait de, t'as dit, si j'ai bien compris, finalement, en goûtant pas à pas, tu te poses moins de questions par rapport à tes choix. Et ça, je trouve ça hyper important, et c'est effectivement ce que j'ai ressenti à Compostelle aussi, c'est que et ça, pour moi, ça m'a reconnecté à quelque chose de très puissant, très fort et très vivant à l'intérieur de moi. C'est que, à partir du moment où j'ai décidé de passer, un exemple tout bête, hein, moi j'étais sur le chemin de Vézelay, il y a quatre voies, hein, de Compostelle, moi je suis parti de Vézelay, Et en fait, à un moment, on peut choisir de passer par Bourges ou par Nevers. Et voilà, et moi j'ai regardé, je me suis renseigné, puis ça me semblait mieux pour moi de passer par Bourges. Et ben, une fois que j'ai décidé ça, j'ai plus jamais repensé à la voie de Nevers. Elle est sortie de ma tête, elle est sortie de ma vie. Et ça, c'est quelque chose de... Avec ce chemin, on ne peut aller que vers l'avant. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti. Je ne peux qu'avancer. Ça, c'était très fort. Tu vois, c'est en parlant avec toi maintenant, je me rends compte. Je ne peux qu'avancer. Et ça m'a fait du bien de vivre ça. De mettre dans une situation où je ne peux qu'avancer.
Oui.
Et là, il n'y a plus de passé. Même ce qui s'est joué 1 heure avant, 2 jours avant, c'est aux oubliettes. Ça n'existe même plus, en fait. Enfin, ça n'existe plus. Je suis tellement focalisé sur ce que je suis en train de vivre que, en étant vraiment présent, sans faire d'effort, parce que ça me plaisait tellement enfin, il y a des moments le sac je trouvais lourd, mais j'étais tellement content de vivre cette expérience que. Et surtout, tu vois, il y a un truc aussi, c'est que j'aurais pas voulu vivre autre chose. C'était très clair. Quand je faisais cette expérience, je me disais pas. J'aimerais bien être sur la côte d'Azur, dans une piscine. Non, j'étais vraiment. J'étais dans ce que je faisais. C'est un truc aussi que je voulais dire d'ailleurs. Pour moi, c'est lié peut-être à ces histoires de. C'est compliqué de faire des choix ou pas. C'est que. J'ai senti, en fait, en marchant, qu'il y avait une synchronisation entre le mouvement de mon esprit et le mouvement de mon corps. Ce que je veux dire, c'est qu'en temps normal, dans une vie sédentaire, où le corps n'est pas très activé, alors que la tête, elle est très activée, ben, y a un grand décalage. On le sait tous depuis longtemps, hein, mais moi, je l'ai vraiment expérimenté. C'est-à-dire que j'ai vraiment expérimenté dans mon corps, à l'intérieur de moi, que d'être en mouvement physiquement 6 heures, 7 heures par jour, ça venait synchroniser quelque chose, en fait, parce que la pensée, c'est du mouvement intériorisé.
Ouais, en fait, ce qui me parle dans ce que tu dis, même si moi j'ai pas vécu ça, c'est le fait d'être comme t'es présent à ce que à ta marche. Il y a quelque chose où ton esprit se concentre sur ce qui est en train de se vivre. Donc naturellement, ce qui est en train de se vivre, c'est lent, puisque la marche, bon, même si tu marchais vite, mais c'est, voilà, tu vas voir progressivement les paysages évoluer, ça va vraiment mettre du temps. C'est pas comme quand t'es en voiture où tu vois les paysages défiler d'un coup, tu passes d'un truc à un autre. Donc il y a vraiment une notion de ralentir, finalement, paradoxalement, alors qu'on marche, on ralentit, alors que quand on est peut-être statique ou sédentaire et qu'on pense beaucoup, ce qui est étonnant, c'est que le corps, il a beau être inactif apparemment, à mon avis, mon ressenti, c'est qu'il est actif dans le sens il se tend, il se tord, il se stresse en réaction à l'intensité de l'activité intellectuelle. Et c'est marrant parce que j'avais une amie hier soir ici à dîner et elle m'a parlé de ce stress, de cette angoisse. Elle me disait, j'ai ce truc, cette angoisse qui est là et je sais pas vraiment d'où elle vient. Et je vois que genre comme dans ma tête, ça mouline trop, machin. Même quand apparemment ça va bien, objectivement. Et je fais le lien avec ça parce que je sens que c'est quelqu'un qui est très puissante intellectuellement. Et on a des points en commun sur ça. Elle pense beaucoup, elle analyse beaucoup, mais qui n'est pas forcément très très active physiquement dans son quotidien, parce qu'elle travaille devant un ordi, quoi, en gros. Mais je sais que quand elle va danser, elle fait de la danse, quand elle va danser, à chaque fois, elle m'en parle. Quand elle m'en parle, c'est genre, waouh! C'est comme si ça libérait un truc et que cette angoisse qui est latente, qui est là parce que son corps, il est noué par ses pensées incessantes ou trop rapides. Là, tout d'un coup, quand elle danse, il y a quelque chose qui se libère. Et quand elle marche aussi, elle aime beaucoup marcher. Elle aime beaucoup, beaucoup marcher. Donc je pense qu'il y a vraiment ce levier, comme tu dis, de sorte de libération de cette machine qui mouline dans la tête, là. Ça nous libère la tête, mais ça nous libère le corps aussi. Parce que c'est lié, quoi. Et que le corps, il... En fait, moi je m'en rends compte parfois, je passe un temps à me concentrer sur quelque chose uniquement intellectuel ou je reste longtemps sur un ordinateur, je me réveille quelques heures après, je me rends compte de l'état de mon corps. Je suis ah mais là en fait ça va pas du tout. J'ai le ventre noué, j'ai les épaules crispées. Donc, et ça fait lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le corps il nous parle quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc moi j'ai compris, bosser sur un ordi toute la journée, c'est pas bon pour mon corps. Je sais pas s'il y a des gens pour qui c'est bon, en tout cas pour moi c'est pas bon.
Ouais, non, je comprends très bien. Ouais. Je voulais dire un truc.
C'est parti.
Oui, c'est qu'en fait, en marchant là toute la journée pendant plusieurs jours, je me suis dit vraiment, Homo sapiens, en fait, il devait marcher des kilomètres et des kilomètres. Et ça, en plus, je trouve ça colle avec ce que tu viens de dire. Et je pense que sa réflexion devait vraiment se limiter à des questions de survie. Et du coup, ça devait être très équilibré par rapport à ça.
Ouais, peut-être qu'il y a d'autres choses où c'était un peu moins.
Peut-être qu'il y avait d'autres choses.
Mais bon, on va dire dans l'ensemble.
Ouais, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est que. Oui.
Tu t'es reconnecté à ton instinct d'Homo sapiens.
Ouais, carrément. Bon, même si j'ai acheté ma nourriture au supermarché.
Ah ouais, ah, tu casses tout là, fallait pas le dire pour le podcast. Bon, du coup, là je vois qu'il est. Enfin, ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Est-ce que ça te va si on commence doucement à terminer la conversation?
Ouais.
J'ai envie déjà de te remercier. Et j'ai envie aussi de donner des petites infos sur tout ce que tu fais. Bon, alors, t'as dit que t'étais prof de guitare, donc déjà,
si vous voulez faire de la guitare.
Voilà. Non, mais on n'a pas beaucoup parlé de musique, ceci dit. On aurait pu plus en parler. Bon, ce sera peut-être pour un prochain épisode. Qui sait, on te réinvitera peut-être à la fin pour clôturer. Donc, tu es aussi thérapeute. T'as aussi beaucoup parlé du fait que tu t'es formée, tu t'es intéressée à la partie thérapie. Est-ce que t'as envie de parler un tout petit peu plus de ça rapidement?
Oui, très rapidement. En fait, j'ai deux activités en tant que thérapeute. En fait, je propose des soins énergétiques. Je me suis formé depuis plusieurs années. Et disons que les soins énergétiques, ça permet à la personne qui vient me voir de refaire circuler les énergies qui sont bloquées à l'intérieur d'elle. Et généralement, les retours que j'ai, c'est généralement du bien-être et aussi une remise en mouvement à l'intérieur des personnes qui leur permet généralement, quand elles sont bloquées dans des situations dans leur vie, d'acter des choses, de se remettre en action concrètement.
C'est comme un petit coup de pouce quand ouais. C'est un truc qui est bloqué, quoi.
Ouais, exactement. C'est comme une vidange.
Ça nettoie.
Ça nettoie.
D'accord.
Et l'autre activité... c'est la sophroanalyse. Et la sophroanalyse, c'est une thérapie individuelle. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes me parlent de leurs problèmes dans leur vie d'aujourd'hui. Et en fait, dans un état de relaxation, je les aide à reconnecter l'origine la plus archaïque, la plus ancienne, des problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit par cette pratique que l'origine, c'est souvent des mémoires du passé, la généalogie, ça peut être dans le ventre de la maman, ça peut être au moment de la naissance, ça peut être pendant la petite enfance. Et c'est vraiment une thérapie qui est, pour moi, une des plus puissantes que j'ai pu tester, parce que je l'ai testée avant de me former comme thérapeute. Et en thérapie individuelle, je trouve que c'est vraiment très très puissant. Et c'est puissant, c'est une thérapie brève, c'est une vingtaine de séances en moyenne. Et ça tient dans la durée. C'est-à-dire que les changements sont vraiment profonds et il y a vraiment un avant et un après. Quoi.
Mmh.
Enfin, dans mon expérience, ça a été vraiment ça.
Mmh. Okay. Ok, donc deux activités, des soins énergétiques d'une part et la sophro-analyse d'autre part.
Oui.
Deux activités de thérapeute. En plus de
la musique.
La musique.
Et particulièrement la musique d'Amérique latine. En fait, pendant 2 ans, j'ai fait un duo avec une amie chanteuse. Et bon, bah voilà. C'est la musique d'Amérique latine, et spécialement d'Argentine. Et du Brésil aussi, mais l'Argentine, c'est.
Ah oui, Brésil, tu fais un peu de bossa nova?
Un petit peu, ouais.
Ah bah, ça m'intéresse.
Un petit peu,
Cool. Bon, bah en plus, c'est bien parce que j'apprends des choses aussi sur Lionel qui m'avait pas
ouais.
dites, qui m'avait caché. Non, je rigole. Enfin bref, je suis très contente qu'on ait eu ce moment, voilà, partagé authentiquement en essayant de, voilà, de s'écouter puis de d'aborder ces thèmes qui finalement sont des thèmes qu'on aborde naturellement quand on est ensemble, quand on se voit, quand on discute, et de pouvoir aller bien chercher en profondeur là-dessus et pouvoir le partager avec vous, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à alors
Ah
attends,
oui, moi je veux
Lionel.
juste te dire que je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Et justement, je trouve que c'est vraiment à ton image. Il y a quelque chose de très inventif et de très créatif chez toi. Et un côté entrepreneuse. Et je trouve que ça te va très bien. Et ça me surprend pas en fait. C'est vraiment une qualité que tu as. Et
Merci.
voilà. Et je trouve que c'est une super idée.
Ouais, bah écoute, merci pour ton encouragement. En tout cas, ça me booste encore plus, que je suis déjà hyper enthousiaste, mais c'est vrai que être soutenue, c'est important aussi. Voilà, du coup, j'ai été ravie de partager ce moment. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Je ne sais pas encore avec qui ce sera. C'est la surprise. Il y a plusieurs choses prévues, mais l'ordre n'est pas encore défini. Et
Ils viendront tous, mais la question c'est dans quel ordre, quoi.
voilà, dans quel ordre? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que qui sait, peut-être ça va être en français le prochain, peut-être pas. Parce que je fais des épisodes en français, mais aussi en anglais, en espagnol. Mais non, pour être parfaitement honnête, je pense que le prochain sera aussi en français. Il y a des chances. Voilà, en tous les cas, j'étais ravie et je vous dis à très bientôt sur Reconnexion, podcast pour se reconnecter à soi et s'inspirer de personnes authentiques dans des moments créatifs et spontanés. There's a message, be true to yourself, it's okay.